Chapitre 6 Calabre. Billets en main, Christian Lloyd regarda sa montre et fit signe à Toulbahadour Tapa. Il était temps de prendre place dans le compartiment. Le train de Rome allait partir à l'heure, preuve que le fascisme a ses avantages quand il s'épanouit sur des rails. Arrivé à Cosenza, au petit matin, les deux hommes avaient abandonné la Fiat du Dottore Bianco dans le quartier de la cathédrale. Pour tuer le temps, il s'était promené sur les rives du Busento et dans les venelles de la vieille ville. Le jour se levait à peine et ils ne croisèrent qu'un capucin et un paysan montés sur un âne. Deux ou trois femmes vêtues de noir les observèrent du haut de leur balcon en fer forgé. Puis ils se rendirent à la stazione pour acheter leurs billets. En temps de guerre, une gare est le lieu de tous les dangers, celui où la police contrôle, vérifie, embarque. Christen n'était allé qu'une seule fois en Calabre, mais dans le sud extrême, du côté de Reggio. Rien ne l'y avait surpris. Le pays ressemblait à s'y méprendre à l'Inde de son enfance. Les mouches, les jasmins et les bougainvilliers, mais aussi les mendiants, les aveugles, les va-nu-pieds, les flopés de gosses morveux, les femmes enceintes, et même, disait-on, les bandits de grand chemin, qui attendaient le bon moment pour détrousser le voyageur avant de l'étrangler à l'ombre rare des oliviers. Il se trouverait toujours aussi, comme en Inde, de doux rêveurs qui prétendraient que la misère est pittoresque, mais elle ne l'est que dans les sermons et les poèmes. En remontant le quai de la gare, Christen constata que même Mussolini avait quelque mal à transformer cette terre de Calabre. Tournant le dos à la foule grouillante des voyageurs qu'ils étaient censés surveiller, trois carabinieri, le col de chemise ouvert, fumait une cigarette en commentant à grands cris la première page du Messaggero. Sur un des murs, une affiche du Duce était certes bien en place, mais un artiste anonyme lui avait ajouté la moustache de Hitler et personne ne semblait s'en offusquer. Le fascisme était bien né sur les bords de la Méditerranée, pensa Christen, mais sa version calabraise semblait fort éloignée du fascismus germanique. Tandis que le train se mettait en marche, Christian examina les cinq autres passagers du compartiment. Il y avait quatre jeunes permissionnaires mal rasés qui, semblait-il, regagnaient leur régiment sans enthousiasme excessif. Ces soldats seraient peut-être bientôt envoyés en Cyrénaïque et n'avaient pour l'heure d'autre désir que d'engranger des heures de sommeil. Ils échangèrent quelques mots dans un dialecte que Christian fut incapable de situer, puis fermèrent les yeux. Il ne les rouvrirait sans doute pas avant d'arriver à Rome. Il y avait un cinquième larron, le voisin immédiat de Christen, un petit Italien bedonnant d'une cinquantaine d'années, aux cheveux bouclés poivre et sel. Ses ongles longs et bien manucurés prouvaient qu'il ne travaillait pas sur un chantier, et de fait, l'homme sortit bientôt de son sac un livre en français. Christen reconnut la couverture jaune des éditions Albin Michel. L'ouvrage était Lunegarde, le dernier roman de Pierre Benoît. Voyant que Christen s'était penché pour apercevoir le titre, l'Italien eut un large sourire. « Vous aimez la littérature » demanda-t-il. Il n'attendait pas de réponse et parlait pour le plaisir de la chose. « Eh oui, poursuivit-il, la lecture est mon seul plaisir par les temps qui courent. Permettez-moi de me présenter. Je suis le dottore Mario Volponi, professeur de philologie à Milan. J'arrive de Belzito, où j'étais au mariage d'un collègue. Grand bien lui fasse. Il faut de la vertu, croyez-moi, pour épouser une fille du Sud. » Il serra la main de Christine avec chaleur. Celui-ci n'eut d'autre choix que de se présenter à son tour. « Dottore Fiorello Policardi, ingénieur. Piacere. Vous travaillez à Rome, j'imagine. À Reggio. Je vais à Rome aux obsèques de ma mère. » Le visage de l'Italien se figea et l'homme prit le deuil à son tour. « Oh, je suis désolé, toutes mes condoléances. Elle était très âgée, je suppose. 92 ans. Je suis vraiment désolé, répéta-t-il. L'âge, hélas, ne fait rien à l'affaire. Une mère n'a pas d'âge. On la croit toujours immortelle. » Volponi dégusta la profondeur de sa remarque et voulut poursuivre. Mais Christen ne semblait pas en veine de confidence. L'homme se ravisa donc et plongea le nez dans Pierre Benoît. Il ne résista pas longtemps à la tentation, et 10 minutes plus tard, il se tournait à nouveau vers son voisin. J'ai cru dénoter chez vous une trace d'accent étranger. Eh oui, je suis un spécialiste de phonétique. Vous êtes americano ? Christine se crispa. Son italien, il le savait, était plutôt le toscan, mais dans sa version la plus pure, celle des écrivains et des professeurs. Par malchance, il était tombé sur un linguiste qui le prenait pour un americano, un italien émigré en Amérique. Il décida d'improviser une explication. J'ai longtemps travaillé en Somalie, où je construisais les hôpitaux. Mon domestique, d'ailleurs, est somalien. De la tête, il montra Tapa, lequel feignait de dormir. Le visage de l'Italien s'illumina. « La Somalie ? Ah, par exemple ! Vous étiez à Mogadiscio, je suppose. » Christine acquiesça. C'était décidément son jour de malchance. À l'allure où allaient les choses, il allait bientôt apprendre que son voisin avait, lui aussi, vécu en Afrique. Mais celui-ci caracolait déjà dans une autre direction. Figurez-vous qu'il y a quelques années, je voulais écrire une étude sur la situation linguistique dans les colonies italiennes. La guerre, hélas, a tout fait capoter. Dommage. En fait, c'était surtout l'Éthiopie qui m'intéressait. L'amharique est une langue fascinante, vous ne trouvez pas ? Votre domestique parle somalien ou arabe ? Christine secoua la tête. Il est sourd-muet, ou peu s'en faut. Un sordo muto, poveraccio. Du coup, l'Italien se sentit à son tour incapable de parler. Il se replongea dans Pierre Benoît pendant un quart d'heure, puis leva de nouveau le nez. « C'est amusant, reprit-il. Ce roman parle de l'Égypte, et avec un peu de chance, le Duce sera bientôt au Caire. La Méditerranée va redevenir une mer italienne. Il paraît que la chute de Malte est une question de jours. Je le pense, en effet, opina Christine, pourtant persuadée du contraire. » Volpone allait poursuivre lorsque la porte du compartiment s'ouvrit soudain. Deux hommes en civil apparurent. « Contrôle d'identité, déclara l'un d'eux, veuillez présenter vos papiers. » Dans son demi-sommeil, Toulba et Urtapa perçut qu'il se passait quelque chose. Mais il n'eut pas le temps de réagir. Mario Volpone l'avait fait à sa place. L'homme s'était levé. Avec son ventre bedonnant et ses cheveux grisonnants, on aurait dit un petit fonctionnaire sans importance. Mais ses voisins de compartiment découvrirent qu'il avait une voix de stentor. « Sortez, messieurs, sortez. Allez d'abord vous raser et changer de chemise, et profitez-en pour vous nettoyer les ongles. Quant à vouloir vérifier notre identité, eh bien, vérifions-la, en effet. Je suis le baron Mario Volpone di Monte Cristo, commissario détaché au ministère de l'Intérieur. » Et pour tout arranger, je suis un ami personnel du Duce. » Les deux hommes reculèrent d'un pas. L'un d'eux voulut pourtant montrer quelque résistance. « Nos excuses, monsieur le baron. Nous ne faisions que notre métier. Les ordres sont les ordres. À d'autres, messieurs, vous n'êtes que des terroni de Calabre, tout juste bons à planter des oliviers. Si vous étiez observateur, ce qui est la moindre des choses dans le métier, vous auriez tout de suite remarqué que ce compartiment est un compartiment de patriotes. Voyez ces quatre soldats épuisés, qui repartent pour le front. Voyez ce dottore ingegnere de Toscane, qui s'apprête à conduire le corps usé de sa mère vers sa dernière demeure. Voyez ce brave Somalien, venu des lointains déserts, pour mieux servir la patrie de son maître. Nous recherchions des banditi, bégaya l'un des policiers en se curant le nez. Mario Volpone fit un nouveau pas, et les deux hommes se retrouvèrent dans le couloir. « Des banditi ! Mais c'est vous, les bandits ! Vous n'êtes même pas capable de parler un bon italien. Décampez, je vous prie. Sinon, je vous fais arrêter dès notre arrivée à Rome, et vous vous retrouverez à Tobruk. » Les deux Italiens n'avaient aucune envie de visiter la Cyrénaïque. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs du couloir. Alors Volpone éclata d'un grand rire. « Vous avez vu comment je les ai fait fuir ? Ces gens du Sud sont vraiment des moins que rien. Il suffit de deux ou trois mots bien sentis pour les faire déguerpir. » Les militaires, qui avaient ouvert un œil pendant l'altercation, s'étaient déjà rendormis. Volpone se tourna donc à nouveau vers Christine Lloyd. « Ah, mon cher dottore, vous venez de voir une fois de plus la différence entre le Nord et le Sud, entre la civilisation et la barbarie. Et quand je pense qu'il y a 2000 ans, ce coin était un des hauts lieux de la civilisation grecque. Si, si, mon cher, même le grand Pythagore vivait en Calabre. » Ah, nous en sommes loin aujourd'hui. Ces paysans ne pensent qu'à la sieste. Même la pêche ne les intéresse pas. C'est trop fatigant. Ces policiers d'opérette sont des bons à rien, des cutéreux, des zapateras. Vous avez noté ce qui les a impressionnés? Mon titre de baron. Ces gens-là sont faits pour ramper dans la fange de leur basse-cour. Mais, je vous rassure, je ne suis pas baron de Monte Cristo. Mon père était professeur d'université, tout simplement. Christine se contraignit à sourire. Cela ne me rassure en rien. Eh bien, cher dottore Policardi, apprêtez-vous à rire. Ces deux abrutis de Calabre, je pourrais vraiment, si je le désirais, les envoyer à Tobruk ou El Alamein. Je ne suis pas baron, grâce au ciel, mais je suis bien commissario détaché à l'intérieur. Pas mal pour un linguiste, car notez bien que je ne vous ai pas menti. Il y a 5 ans, j'enseignais vraiment à l'université. C'était dans une autre vie. Beaucoup de mes collègues étaient communistes. Ils sont aujourd'hui à l'ombre, je vous rassure. Il s'arrêta un instant et considéra avec satisfaction la longueur de ses ongles. Eh oui, poursuivit-il, le Duce a transformé l'Italie. Mais quel homme aussi, quel homme! Il ne fume pas et ne boit pas, ne mange que des fruits 5 fois par jour. Les trains arrivent enfin à l'heure et on peut dormir avec les portes ouvertes, con le porte aperte. Bon, où en étais-je? Ah oui, mon travail. Vous savez ce dont je m'occupe à l'intérieur? Christine prit un air intéressé. Non, mais vous allez me le dire. Ne le répétez à personne, mais je suis dans les renseignements militaires. Le contre-espionnage, si vous préférez. Je fais la chasse aux espions russes et anglais, bref, aux communistes et aux juifs. Non que je sois antisémite, cela va sans dire. Comment le serait-on d'ailleurs dans un pays aussi catholique que l'Italie? Il paraît qu'en Allemagne... Allons, dottore, rassurez votre domestique. Non, non, je n'ai rien contre les espions somaliens. Entre nous, il ne fait pas très africain, votre métèque. Si vous ne me l'aviez pas dit, je l'aurais pris pour un indien. Il éclata d'un rire sonore. Mon domestique est sourd-muet, je vous le rappelle, répliqua Christine. Il ne sait même pas de quoi nous parlons. Décidément, j'accumule les bévues, et j'oublie toujours que vous êtes en deuil de la povera mamma. Ah, l'eterno riposo donna a lei, o signore. Allons, je vais me faire pardonner. J'ai là une bouteille de Ciro Rosso dans mon sac, plus quelques provisions que je ne demande qu'à partager avec vous et votre vieux serviteur. Rien d'extraordinaire. Du pain, du capocollo et du pecorino. Avouez, mon cher, que le fascisme a du bon. Je n'en ai jamais douté, dottore. Ah, je sens que nous allons devenir amis, poursuivit le policier. Il referma l'une garde et sortit de sa poche un tire-bouchon. Fribourg en Brisgau. Le nom du code d'Elisa Wagner, Violette, avait été choisi par le colonel Barnes parce que sa fille Peggy aimait les fleurs et qu'il lui en offrait toujours un bouquet pour son anniversaire le 8 février. Le hasard, en l'occurrence, avait mal fait les choses, car la couleur mauve de la violette, du lilas et de la lavande est depuis toujours associée aux amours saphiques. Le Violette, sur la Bülowstrasse, où Elisa se rendait souvent avec son amie Magda, était jadis un des hauts lieux des tribades berlinoises, et seuls quelques gros naïfs ignoraient que Das Lila Lied était alors l'hymne national des lesbiennes. Au reste, depuis le suicide de celle qu'elle aimait, Elisa avait perdu le goût de vivre. Plus rien ne la touchait vraiment, pas même la peur. Ce qu'elle voulait était simple, se venger des SS qui avaient souillé le corps de Magda. Des événements tragiques des dernières années, Elisa Wagner retenait au moins une leçon. Toute vie privée doit rester cachée, car ce qui paraît soudain accepté peut, du jour au lendemain, redevenir un délit ou un crime. Ses anciens collègues de l'université ne lui avaient certes jamais reproché d'aimer les femmes, mais le refus de sa différence était bien là, filtré par les bienséances universitaires. L'hostilité avançait masquée et endimanchée, en quelque sorte. Pour s'épanouir, elle attendait le moment de le faire sans risque. Elisa avait eu l'intelligence de quitter cet univers d'intolérance larvée avant qu'il ne fût trop tard. Par chance, les années avaient filé. Aujourd'hui, elle n'était plus, selon ses propres termes, qu'une vieillasse de 42 ans. « Ce qui comporte des avantages, » ajoutait-elle. « Plus personne ne s'intéresse maintenant à la façon dont je vis. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je devrais me marier et me faire engrosser. » Du reste, les années vécues en marge de la normalité lui avaient appris à se fondre dans le paysage. Bonne actrice, elle jouait avec talent le rôle de la grand-mère qu'elle ne serait jamais. Qui aurait pu se douter qu'elle avait été la reine du Violetta et du Montbijou, que ce corps était en 1928 l'un des plus désirés de Berlin, que son éternelle fichue ardoise recouvrait une des plus belles chevelures blondes des années folles. Restaient les habitudes. Derrière les lunettes noires, l'œil était encore baladeur. Armée d'un instinct très sûr, elle repérait les femmes que jadis elle n'aurait eu aucun mal à séduire, mais aussi celles plus âgées qu'elle pensait avoir connues à Berlin. Il lui arrivait même de les suivre, non pour les aborder, ce temps-là était révolu, mais pour le simple plaisir de la chose. Et c'est ainsi que, ce matin du 29 août, elle tomba soudain en arrêt devant la belle façade de la Villa Colombi. La femme d'une 40aine d'années qu'elle venait de croiser lui rappelait quelqu'un. Elisa fit aussitôt demi-tour et lui emboîta le pas, alors que l'inconnu, s'appuyant à la rampe en fonte de l'escalier intérieur, montait déjà les marches à vive allure. Une allure que Violette avait déjà remarquée dans un récent passé. Elle se souvint, cette femme était le docteur Ulrike von Naumann, le médecin qui l'avait jadis conduite à la morgue à Berlin, et qui, tirant vers elle le drap blanc qui recouvrait le corps déchiqueté de Magda, lui avait dit, en détachant toutes les syllabes, « Voilà, Fräulein Wagner, ce qui arrive aux ennemis du Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. » Elisa se retint à la rampe, reprit son souffle, puis redescendit lentement les marches. L'heure de la vengeance était enfin venue. Il suffirait d'attendre devant l'entrée et de suivre Ulrike quand elle ressortirait. Violette irait chercher son revolver pour tenir la promesse faite à Magda quand elle avait vu son corps à la morgue. Berlin. Du jour au lendemain, Rudolf Breuer s'était senti pousser des ailes. L'heure n'était pas loin, pensait-il, où le Reichsführer Heinrich Himmler ne se contenterait pas de l'inviter dans son château, mais le ferait monter dans la hiérarchie des SS. Bientôt, l'employé de l'Abwehr serait à la table sacrée de Wevelsburg l'un des chevaliers de l'ordre noir, et une urne d'argent serait préparée afin de recueillir ses cendres quand sonnerait l'heure du sacrifice. Pour la première fois depuis longtemps, Breuer décida de reporter à la semaine suivante la visite à sa mère. Il laissa sa bicyclette à la cave et téléphona au numéro qui lui avait été indiqué. Une demi-heure plus tard, le cabriolet mis à sa disposition s'arrêtait au pied de l'immeuble. Breuer le vit arriver du haut de sa fenêtre et ses yeux s'embuèrent de larmes. Tant d'humiliation se trouvait soudain effacée. Les rires de ses copains de classe quand il se mettait à bégayer, les chahuts et les quolibets quand il était devenu professeur, les mois d'efforts pour accoucher d'un manuel de pédagogie qu'il avait fallu mettre au pilon, la soutenance de sa thèse de doctorat devant un jury goguenard, les nuits passées à la rédaction du Völkischer Beobachter, à traquer les coquilles d'imprimerie, et les dimanches consacrés à vérifier à la loupe les comptes de l'Abwehr. Pendant 30 ans, il avait été l'administrateur de l'ombre, celui que tout le monde croisait dans les couloirs sans le saluer, comme s'il était invisible. Même sa mère, vissée à son fauteuil, le toisait avec suffisance et ironisait sur sa bicyclette, son célibat, ses chemises mal repassées. Eh bien, il allait montrer à tous que les temps avaient changé et que l'ordre nouveau accordait toute sa place aux hommes de sa trempe, ceux qui appartenaient à la race des seigneurs. Il descendit l'escalier de son immeuble sans se hâter. Puisqu'il avait désormais un chauffeur, celui-ci était là pour se plier à ses caprices et à ses exigences. Jusqu'alors, il avait insisté pour être appelé docteur Breuer. Ce temps était révolu. Il insisterait désormais pour être salué par le grade qui, pour quelque temps, était encore le sien. Unterfeldwebel, ce qui ne durerait pas. Il serait bientôt intronisé dans la SS. Il se voyait promu Oberscharführer, puis Obersturmführer, Hauptsturmführer même, peut-être. Il pénétra dans la voiture et se contenta d'un glacial Heil Hitler. Puis il se raidit sur son siège et lança Tirpitzufer, Abwehr. D'un geste calculé, l'Obersturmführer Bormann remonta la mèche blonde dont il était si fier, puis démarra. Himmler avait raison. Ce sergent-chef Breuer était un rat, tout juste bon à jouer les utilités à l'Abwehr. Pour l'heure, la mission de l'officier aérien était simple, le surveiller. Catanzaro. Le docteur Michele Bianco, qui était à la fois médecin et maire de Catanzaro, haussa les épaules. Décidément, il ne comprenait rien aux événements de ces dernières heures. Deux brefs rapports, griffonnés par sa secrétaire, reposaient sur son bureau. Le premier, sans intérêt pour la commune, indiquait que la veille au soir, des paysans avaient vu un hydravion se poser à proximité de la côte. Un simple exercice de l'aviation italienne, sans doute, ce qui ne le concernait en rien. L'ennui, c'est qu'un autre témoin, le nouvel instituteur de Squillace, Cesare Bardaccio, ajoutait que deux hommes, dont un barbu, étaient descendus de l'appareil et avaient gagné le rivage dans un canot pneumatique, puis volé sa bicyclette. On pouvait certes se demander ce que le maestro faisait sur la plage en pleine nuit. Sans doute observait-il les étoiles en prévision d'un cours. Du reste, ce Cesare Bardaccio était napolitain. On ne pouvait donc lui accorder aucune confiance, et il n'était pas interdit de se demander ce qu'il était venu faire en Calabre, sinon courir le jupon, si l'on en croyait la rumeur publique. Le second rapport concernait le maire en personne. Ses voisins, réveillés par le bruit d'une voiture au pot d'échappement troué, le prévenaient tout simplement que sa Fiat, garée devant son cabinet de médecin, avait pris la clé des champs, ce dont il s'était rendu compte lui-même au champ du coq. Or, ce vol était beaucoup plus grave que l'amérissage d'un hydravion et la disparition d'une bicyclette. Un médecin ne peut exercer sans voiture, surtout s'il se trouve être aussi le sindaco de la commune. Un maire qui n'aimait guère Mussolini, non pour des raisons politiques, mais parce que le Duce venait d'un obscur village de Romagne. Sans compter que le Nabo du Nord était né un 29 juillet, date néfaste entre toutes, puisque la belle-mère du médecin avait, elle aussi, vu le jour un 29 juillet. Tous les barbus de la terre, fussent-ils juifs ou américains, auraient pu débarquer sur la côte sans que le docteur Bianco ressentît le besoin d'en informer les autorités fascistes. Les communistes pouvaient bien remonter vers Rome sur des bicyclettes volées à tous les instituteurs de Calabre si cela les enchantait, mais s'en prendre à sa voiture à lui, alors qu'il était sindaco et medico. Ces inconnus méritaient de se balancer au bout d'une corde. Bianco ordonna à son adjoint de filer à moto à Cosenza, puisque c'était là à coup sûr que les envahisseurs s'étaient rendus. L'envoyé spécial du maire médecin arriva dans la ville 4 heures après le départ du train pour le nord. Il alla trouver les carabinieri, qui promirent de télégraphier à leurs collègues de Rome dès que possible, c'est-à-dire après la sieste. Si le barbu était dans le train, il serait arrêté dès qu'il poserait le pied sur le quai de la gare, et les policiers préviendraient aussitôt le ministère s'il s'avérait que ces hommes étaient des étrangers, c'est-à-dire des espions. Auquel cas, bien sûr, les autorités allemandes en seraient-elles aussi informées. Rome. Adrian Foster poussa un soupir de soulagement. Depuis que Londres l'avait informé que Christian Lloyd et Toulbahadour Tappa étaient arrivés en Calabre, il n'était pas resté inactif. Un discret coup de téléphone à Mgr Luigi Borghese, au Vatican, le rassura. Tout serait prêt pour début septembre. Les documents officiels, le passeport du chauffeur, la voiture et le tailleur romain n'attendaient que la visite des deux hommes venus de Londres pour se mettre à ses ciseaux. De son côté, Foster avait retenu deux chambres dans un discret hôtel du centre de Rome. L'Irlandais ignorait quand ses invités débarqueraient. Il était prévu qu'il lui donnerait un coup de téléphone, en apparence anodin, dès leur arrivée. Ils se retrouveraient une heure plus tard sous l'arc de Constantin. Les deux hommes auraient quelques jours pour se reposer et préparer leur départ pour l'Allemagne. Berlin. Dans le train qui, ce soir-là, le ramenait à Berlin, Subhas Chandra Bose ressentit une fois de plus le découragement l'envahir. Il fallait se rendre à la raison. Il avait joué la mauvaise carte. Plus le temps passait et moins il se faisait d'illusions sur les Allemands. Son entrevue avec Hitler, quelques semaines plus tôt, avait été un coup d'épée dans l'eau. La reconnaissance officielle du gouvernement en exil de Bose était reportée au calende grec. Le Führer, certes, voulait bien lui offrir voiture, gîte et couvert. Il acceptait même bien volontiers de financer ses émissions de radio, puisque le docteur Goebbels y était favorable. Il était vrai que ces programmes devaient pour le moins déranger les Anglais, puisque pour les contrer, Londres avait nommé l'écrivain George Orwell aux services indiens de la BBC. Par ailleurs, Hitler, bon prince, acceptait aussi de nourrir et d'entraîner les soldats de la Légion indienne. Mais pour l'heure, il n'irait pas au-delà. Avant de se prononcer sur la reconnaissance officielle du gouvernement indien en exil, il attendrait la victoire de Rommel. On pourrait reconsidérer les choses lorsque la croix gammée flotterait au sommet de la Grande Pyramide et que les panzers contrôleraient le canal de Suez. Tout cela, pour Hitler, n'était qu'une question de temps, la chute de l'Égypte paraissant inévitable. D'autant que de jeunes officiers hostiles aux Anglais, comme Naguib, Sadat et Nasser, lequel était emprisonné pour avoir pris contact avec des espions allemands, se jetteraient dans les bras de Rommel. Hitler en était persuadé. De l'Égypte à l'Irak, en passant par la Palestine et la Syrie, le monde arabe, hostile aux Britanniques, était prêt à épouser la cause. Le nouvel empire allemand allait se glisser sans mal dans les babouches encore chaudes de l'empire ottoman. Ce n'était pas un hasard si le grand mufti de Jérusalem s'était réfugié à Rome en 1941, puis à Berlin, où un bureau des grosses muftis eut bientôt pignon sur rue. Le racisme de Hitler était à géométrie variable, et ses déclarations tonitruantes ne l'empêchaient en rien d'accueillir des représentants des « races inférieures » quand cela pouvait servir la cause du Reich. Le Führer n'aimait pas le grand mufti, mais il nourrissait une certaine admiration pour les Arabes, du moins pour ceux qui étaient antisémites et anglophobes. Le cas de Bose était comparable, puisque la seule présence à Berlin de ce brillant produit de la haute société du Bengale était une claque pour les Anglais. Pour autant, l'Indien restait lucide. Les Allemands ne lui accordaient qu'une confiance limitée, et tous les services de police le surveillaient en permanence. Selon les étranges critères ethniques du Reich, Bose n'était pas un arien. L'intérêt de l'Allemagne pour les nationalistes d'Orient ne datait pas des années 30. Au début du siècle, l'empereur Guillaume II, qui rêvait d'un vaste empire colonial, faisait déjà les yeux doux aux intellectuels indiens. Berlin fut alors la plaque tournante de tous ceux qui, en Irlande, au Proche-Orient ou en Inde, voulaient rejeter les Anglais à la mer. Le Kaiser, qui envisageait de faire construire une ligne du chemin de fer entre l'Allemagne et l'Irak, ne parlait que de marche vers l'Est, Drang nach Osten. C'est donc tout naturellement que des révolutionnaires indiens choisirent, comme les Irlandais, le camp des Allemands lors de la Grande Guerre. Le lien entre Berlin et Delhi n'avait jamais été rompu, ce qui explique le choix de Subhas Chandra Bose. Mais ce qui était facile en 1916 l'était beaucoup moins dans l'Allemagne xénophobe des années 40. C'est pourquoi, ces derniers mois, le Bengali avait joué deux autres cartes, une italienne et une japonaise. Ses diverses rencontres avec Mussolini et son ministre des Affaires étrangères, le comte Ciano, qui avait été en poste en Asie, s'étaient avérées positives. Le Duce, que Bose sentait plus proche de lui que le Führer, s'était déclaré prêt à reconnaître son gouvernement en exil, mais cela ne servirait à rien tant que les Allemands feraient la fine bouche. L'Indien décida alors de jouer aussi la carte japonaise. C'était peut-être de Tokyo, ou de Singapour qu'il fallait lancer une offensive militaire contre les Anglais. D'autant que des milliers de soldats indiens, faits prisonniers en Asie, étaient passés à l'ennemi et luttaient aujourd'hui aux côtés des Japonais. Une armée nationale indienne avait été créée à Singapour dès 1941, bien avant que Bose lui-même ne pût organiser sa légion en Europe. Une seule chose, à vrai dire, retenait encore Bose en Allemagne. Sa femme Émilie était enceinte et il voulait être là pour la naissance de l'enfant. Rien ne pressait donc, puisqu'il fallait de toute façon convaincre d'abord les Allemands, les Italiens ou les Japonais de le conduire en Asie du Sud. Tout cela, Londres l'ignorait encore. Ainsi, alors que Christian Lloyd et Thulbahadur Thapa étaient sur le point d'entrer en Allemagne, Subhas Chandra Bose, lui, s'apprêtait à quitter le pays. Le chef indien préparait un nouveau voyage à Rome, alors que venant d'Italie, les deux agents de Londres prenaient le chemin de l'Allemagne. Pendant ce temps, dans les sables du désert, le maréchal Rommel allait attaquer Drang nach Osten. Le rêve du Kaiser était sur le point de devenir réalité.